Bonjour à tous. Aujourd'hui, on termine une série de prédications sur l'Épître aux Romains et plus précisément sur l'expression « loin de là ». Et cette expression, Paul l'emploie à 7 reprises dans cet Épître. Et ce matin, nous allons plutôt nous pencher sur la question d'Israël. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu dans le magazine L'Express un dossier qui était consacré sur l'année 2048 et dans ce dossier là il y avait beaucoup de questions qui étaient posées, que le monde se posait et tous les domaines étaient abordés, que ce soit le domaine high-tech, le domaine économique, médical, social, politique, religieux, le domaine éthique, tous les domaines étaient abordés. Et une des questions les personnes qui répondaient à ces questions étaient toutes spécialisées dans leur domaine. Et une des questions, parmi toutes les autres qui étaient posées, était la suivante. L'État d'Israël existera-t-il toujours en 2048 ? C'est une question que le monde se pose. Peut-être que nous aussi, aujourd'hui, on se la pose. Et on sait aussi que les médias du monde entier sont tournés sur ce petit pays qui, paraît-il, n'est pas plus grand que notre Bretagne à nous. Et dans l'Épître aux Romains, Paul pose une question qui ressemble. Au chapitre 11, il dit « Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» Et il répond de manière catégorique « Loin de là ». Et dans le grec, cette expression « loin de là » veut plutôt dire « jamais de la vie ». Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Jamais de la vie. Et ce matin, je vous propose tout simplement de regarder les arguments que Paul donne dans ce passage. Je vous invite à ouvrir la Bible et à lire Romains, chapitre 11, les versets 1 à 6. Je lis. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Jamais de la vie. Car moi aussi, je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie ? Mais quelle est la réponse divine ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Dieu a-t-il rejeté son peuple ? C'est la question que pose l'apôtre Paul et il répond de manière catégorique, jamais de la vie. Et la première preuve que Paul avance ici, c'est son expérience de vie. Il se cite en exemple, non pas par prétention, mais parce qu'il montre qu'il est une preuve vivante que Dieu ne rejette pas les Israélites. Il est israélite, juif, de la semence d'Abraham, de la tribu de Benjamin, il nous dit. L'apôtre Paul a été enseigné en tant que pharisien, et nous savons aussi qu'il excellait beaucoup dans ce domaine, au point même d'être zélé à persécuter l'Église de Dieu. À travers cette preuve, Paul montre qu'il est l'objet d'une grâce particulière de Dieu. Comme autrefois, il reprend un autre exemple, comme autrefois au temps d'Élie, qui lui, de certaine manière, croyait être le seul à adorer Dieu, mais Dieu reprendra Élie et lui dira « Écoute Élie, je me suis mis de côté 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » Dieu s'était réservé au temps d'Élie un reste selon l'élection de sa grâce. Et pour comprendre cette notion de reste, nous avons besoin de plonger nos regards dans l'Écriture. Et le livre qui parle le plus de cette notion-là est le livre d'Ésaïe. Et déjà même, Ésaïe écrit au chapitre 1 et à partir du verset 9, Ésaïe écrit « Si l'Éternel des armées ne nous eût laissé un bien petit résidu, nous aurions été comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. » Dieu s'était mis déjà au temps d'Élie un reste de côté pour éviter de rayer de la carte cette nation. Et on saura aussi un peu plus loin dans ce même livre, dans Ésaïe, plus loin au chapitre 37, Ésaïe écrit à partir du verset 2, « Ce reste, ce résidu, enfin tout dépend des traductions de la Bible, fera l'objet d'une prophétie particulière. » Il est écrit au verset 32 du chapitre 37, « Car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion, des rescapés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » L'histoire nous montre que Dieu s'est mis de côté un reste, que ce soit au temps de la déportation d'Israël, que ce soit au temps de son retour aussi d'exil, que ce soit même au temps du Nouveau Testament, lorsque le Seigneur Jésus est venu. On connaît tous l'histoire de Siméon, cet homme juste et pieux. Qu'est-ce qu'il dit quand il a l'enfant Jésus dans les bras? On peut lire, hein, ce qu'il dit. Luc chapitre 2, les versets 29, il est dit « Maintenant, maître, il adresse cette prière à Dieu. Hein. « Maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Ce reste, en reprenant un petit peu le chapitre 11 qu'on a lu, Paul dit qu'il existe dans le temps présent. Mais quel est ce temps présent? C'était le temps de l'apôtre Paul. Il se considérait comme faisant partie de ce reste, il se cite comme exemple. Mais il avait probablement en tête et à l'esprit les disciples qui avaient suivi Jésus. Lorsqu'il écrit cette lettre, enfin en tout cas les disciples qui étaient vivants lorsqu'il écrit cette lettre, il le considérait comme faisant partie de ce reste. Mais ce temps présent, il englobe aussi toutes les générations qui ont suivi la lettre de Paul. Aujourd'hui encore, et nous le savons, nous en avons même reçu un il n'y a pas longtemps, Josué Turnil, des Juifs se tournent vers le Messie, leur Messie. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Paul répond, jamais de la vie. Au contraire, il se réserve un reste selon l'élection de sa grâce. Et cette grâce, Paul en prend conscience à partir du verset 6. Cette grâce est le fondement même de son ministère d'apôtre. Et pour nous, croyants, c'est le fondement même aussi de la vie chrétienne en général. Ce que nous marchons par la grâce, ce que nous vivons par la grâce, tous les jours. Ce que Paul est en train de dire au verset 6, c'est que ce n'est pas par la connaissance de la Torah, enfin de l'Ancien Testament, que des Juifs se tournent vers Jésus-Christ. Ce n'est pas par son ministère d'apôtre, on le verra plus tard, ce n'est pas non plus par les œuvres, c'est par grâce. Sinon, la grâce n'est plus une grâce. Dans son ministère, Dieu appellera l'apôtre Paul à être l'apôtre des Juifs. Non, l'apôtre des païens. Le Juif, le plus juif des Juifs, appelé vers les nations les moins juives. À cause, justement, l'apôtre des païens, à cause de l'endurcissement d'Israël. Paul sera reconnaissant de ce que des païens se tournent vers Christ, car grâce à ces païens, Paul touche de manière indirecte les gens de sa race, ceux qu'il avait le plus à cœur, pour eux, pour lesquels il était prêt à être anathème, séparé de Christ, jusqu'à provoquer leur jalousie. Et c'est la raison pour laquelle il écrit un peu plus loin, dans le Romain, au chapitre 11, dans le texte où nous sommes, qu'il glorifie son ministère. Et ça nous amène à considérer une autre preuve que l'apôtre Paul donne dans ce passage. Et je vous invite à lire Romain, chapitre 11, les versets 11 à 15. Romain 11, versets 11 à 15, Paul écrit « Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber? Certes non, mais par leur chute, le salut a été donné aux païens afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur défaite la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, moi, je glorifie mon ministère. » afin, s'il est possible, de provoquer la jalousie parmi ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts ? Dieu a-t-il rejeté son peuple ? C'est la question de départ. Jamais de la vie. Dans sa toute-puissance et sa souveraineté, Dieu s'est servi des nations pour réveiller la conscience obscurcie d'Israël, pour les provoquer à la jalousie. Et Paul utilise, donne cette expression « provoquer à la jalousie » deux fois. Il se répète, non pas parce qu'il perd la tête, mais parce qu'il veut montrer l'importance et l'impact qu'ont les nations sur Israël. Et pour comprendre cet état, Israël, on a besoin un petit peu de retracer sa vie, en tout cas, ce que la Bible nous dit sur ce pays. Dans l'Ancien Testament, on nous montre un petit peu ce paradoxe, alors je ne sais pas si c'est le bon mot d'utiliser ce paradoxe, entre Israël, cette nation qui rejette Dieu, et Dieu, d'un autre côté, qui ne se lasse pas d'appeler cette nation à revenir à lui. On raconte, c'est une histoire, on raconte que les rabbins juifs disent que ce n'est pas Dieu qui a choisi Israël, mais que ce sont les Juifs qui ont choisi Dieu. Et que les Juifs ne faisaient même pas partie du top 10 des nations que Dieu voulait choisir. Dieu est allé à toutes les nations de la terre et il leur a posé une question. Il est allé en premier aux Assyriens. Et il leur a posé cette question aux Assyriens, un peuple fier, un peuple intelligent, un peuple d'ingénieurs, un peuple qui aimait la guerre. Et il leur a posé cette question. Est-ce que vous voulez être mon peuple et garder ma loi ? Et les Assyriens ont répondu, qu'y a-t-il dans votre loi, Seigneur Dieu ? Et Dieu a dit, tu ne tueras point. Et les Assyriens ont dit, c'est trop dur pour nous. Et on passe. Et Dieu est passé. Et il est allé voir ensuite les Gaulois, un peuple qui aime la littérature, qui est cultivé, qui aime l'amour. Et il leur a posé cette question aussi, aux Gaulois. Est-ce que vous voulez être mon peuple et garder ma loi ? Et les Gaulois ont répondu, qu'y a-t-il dans votre loi, Seigneur Dieu ? Et Dieu a dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Et les Gaulois ont répondu, c'est trop dur pour nous. Et on passe. Et ainsi de suite, il a fait toutes les nations de la terre. Et il arrive à Moïse, représentant parfait par excellence du peuple juif, du peuple hébreu. Et il a posé cette même question à Moïse. Moïse, est-ce que toi et ton peuple, voulez-vous être mon peuple et garder ma loi ? Et Moïse ne répond pas comme toutes les nations de la terre. Qu'y a-t-il dans votre loi, Seigneur Dieu ? Non, Moïse y répond, combien ça coûte ? Alors Dieu, surpris de la réponse de Moïse, lui dit, eh bien c'est gratuit. Alors Moïse, il dit, bah, si c'est gratuit, mon peuple et moi, on en prendra deux. Et c'est ainsi que les deux tables de la loi sont nées. C'est drôle, mais c'est pas ce que nous enseignent les Écritures au sujet d'Israël. Ésaïe écrit au sujet de ce peuple, et c'est Dieu qui parle, « J'ai étendu ma main tout le jour vers un peuple rebelle qui me provoque continuellement en face. » La désobéissance d'Israël, sa rébellion, ses prostitutions avec les idoles n'a cessé de susciter la jalousie de Dieu. Et Dieu dira même par la bouche de Moïse dans le Deutéronome, « Ils m'ont ému, ému à la jalousie. » parce qu'il n'est point Dieu. Ils m'ont provoqué à la colère par leur vanité, ou selon certaines traditions, par leurs idoles. Mais ce n'est pas tout, ça c'est l'Ancien Testament, mais que nous dit le Nouveau Testament ? Lorsque nous lisons les Évangiles et les Actes, c'est intéressant de remarquer l'attitude de la nation d'Israël envers le royaume, envers le Messie, envers l'Évangile. Et à trois reprises, les Juifs ce peuple qui a été influencé par une petite minorité de Juifs, les Juifs ont catégoriquement rejeté leur Messie. Et ces rejets ont malheureusement, on n'a pas le temps de prendre les textes, mais ont toujours été suivis par des blasphèmes proférés de leur part. Alors une question à ce que nous avons dû, on est obligé de survoler, une question à ce que nous venons de dire pour nous aujourd'hui. Quelle attitude adoptons-nous face à la grandeur et au du sacrifice du Seigneur Jésus ? Est-ce que nous méprisons cette bonne nouvelle, ou bien, justement, est-ce que nous l'avons acceptée et en conséquent, nous vivons cette bonne nouvelle au quotidien? Dieu ne rejette personne, mais constamment, il prend l'initiative de venir vers nous pour nous offrir ce qu'il y a de meilleur, la vie éternelle. Alors les Juifs ont rejeté leur Messie et l'Évangile. Et bien que dans l'histoire, on l'a vu, il y a toujours eu un reste, la grande majorité des Juifs demeure incrédule face à la résurrection de Christ. Ce qui pourrait laisser certains penser que Dieu finalement a rejeté son peuple. Jamais de la vie. Et l'apôtre Paul va construire un autre argument dans ce texte. Il nous montre que finalement, l'endurcissement en partie d'Israël était annoncé dans l'Ancien Testament. Et je vous propose de lire Romains chapitre 11, les versets 7 à 10, les versets qu'on a sautés. Quoi donc ? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu. Les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient continuellement leur dos courbé. Dieu a-t-il rejeté son peuple ? C'est la question de Paul, de départ. Il répond, jamais de la vie. Paul appuie cette preuve sur les Écritures, et plus précisément sur les prophéties. Il cite ici Ésaïe et les psaumes. L'évangile que nous connaissons est basé exclusivement sur ce qu'ont annoncé les prophètes. Paul donnera ce témoignage-là devant le roi Agrippa. Dans Actes, au chapitre 26, il dit « Je rends témoignage devant les petits et les grands sans rien dire en dehors de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, c'est-à-dire que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux païens. » Les prophéties concernant Israël, toutes ne se sont pas accomplies, et Paul était conscient de cela lorsqu'il dit au roi Agrippa qu'il a été mis en jugement pour l'espérance d'Israël, qui n'est autre qu'une vie d'entre les morts. Alors vendredi soir, il y a eu quelque chose, n'est-ce pas ? Il y a eu la réunion de quartier du groupe Nord. Et à cette réunion de quartier, on a eu le privilège, ceux qui ont assisté, de pouvoir voir le voyage de Michel et Nathalie Bariol en Israël. Et on a pu voir toutes des photos, un magnifique pays. Et une photo a attiré mon attention, plus particulièrement, lorsqu'ils nous ont dit que ça, c'était la photo des monts des Oliviers. Alors les monts des Oliviers, c'était beau, enfin en tout cas de ce que les spécialistes disent que c'est ici le mont des Oliviers. Mais on remarque que sur cette photo, alors c'est dommage, je ne l'ai pas, j'ai oublié de leur demander, que c'était finalement un cimetière, c'était des tombes qui étaient là-bas, sur le mont des Oliviers. Israël, l'espérance d'Israël, une vie d'entre les morts. La question que pose Paul au roi Agrippa est toujours d'actualité. Rends roi Agrippa, crois-tu aux prophètes ? Est-ce que nous croyons aux prophètes ? Parce que les prophéties nous parlent de l'endurcissement d'une partie d'Israël. Et cet endurcissement fait partie intégrante du plan de Dieu. Dieu suscita un esprit d'assoupissement à Israël à cause de la dureté de son cœur. Mais nous avons besoin aussi de nous rappeler que cet endurcissement est un mystère. L'apôtre Paul le dit un peu plus loin, au chapitre 11, toujours Romains 11, verset 25, il dit « Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Un mystère, comme le dit Richard Doulière, n'est pas quelque chose d'incompréhensible, mais plutôt une vérité qui a longtemps été cachée dans les Écritures et qui est maintenant révélée. Et des mystères dans la Bible, en tout cas l'apôtre Paul nous en révèle beaucoup. Le mystère de l'iniquité, le mystère de la foi, le mystère de la piété dans Timothée, le mystère de l'évangile de Christ de Dieu. Et tous, l'apôtre Paul nous les révélait. Cet endurcissement aussi d'une partie d'Israël prendra fin lors du retour de Christ. Et l'apôtre Paul précise bien au verset 25, on va le relire, et verset 26, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Une question. Est-ce que nous attendons, Christ va revenir, mais est-ce que nous attendons son retour, nous, chrétiens? Est-ce que nous nous réjouissons de ce qui va revenir? L'endurcissement d'une partie d'Israël est un mystère, l'apôtre Paul le dit. Et parce qu'un mystère nous a été révélé, l'apôtre Paul avertit les lecteurs de sa lettre de ne pas se regarder comme sages. Et à trois reprises, ici en tout cas dans ce passage, à trois reprises, Paul va avertir les lecteurs, les croyants, de ne pas sombrer dans un quelconque orgueil, un orgueil spirituel. Verset 18, il dit « Ne te glorifie pas ». Verset 20, il dit « N'aie pas de pensée hautaine ». Verset 25, il dit, on l'a lu, « Ne te regarde pas comme sage ». Est-ce que vous savez ce que c'est l'orgueil spirituel? L'orgueil spirituel est de croire que puisque Israël n'a pas reçu l'Évangile, n'a pas reçu son Messie, il a donc cessé d'être le peuple de Dieu, d'être le peuple, pardon, élu de Dieu, je précise. Ainsi, dans le prolongement, si on va dans le prolongement de cette pensée, cette nation a été remplacée par un nouvel Israël que l'on nomme l'Église. Malheureusement, aujourd'hui, dans certaines écoles bibliques ou facultés évangéliques, on enseigne ces choses. Et ça, c'est le danger de la théologie dite du remplacement, qui dit, de manière un petit peu subtile, l'Église a substitué Israël. Ou bien, de manière un peu plus frontale, de dire que dans le plan de Dieu, l'Église a remplacé Israël. Israël n'aurait donc plus son rôle à jouer dans le monde. Mais Christ, il ne va pas revenir à Paris, il ne va pas revenir à New York, il ne va pas revenir en Amérique comme le prétendent les Mormons, il ne va pas revenir à Shanghai, à Johannesburg, il ne va pas revenir en Irak, dans la Crimée. Non, Christ il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Jamais de la vie. Dieu n'a pas renoncé à son plan pour Israël. Israël reste et demeure le peuple élu. Et est-ce que vous savez la raison? La réponse, elle se trouve au verset 29. Paul écrit, « Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Et je me permets de citer ce verset deux fois, parce qu'il est court et ça nous fera un verset de plus à apprendre par cœur. « Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Les deux engagements de Dieu, l'apôtre Paul précise qu'ils sont irrévocables. C'est-à-dire qu'il ne reviendra pas dessus pour changer quoi que ce soit. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu, nous dit les Écritures, n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir dû repentir. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Et le premier engagement de Dieu est les dons gratuits. Mais que sont ces dons gratuits? Et l'apôtre Paul, il dresse une liste de ces dons gratuits à Israël, un peu avant, au chapitre 9. Au verset 2 et 3, il écrit, et il parle de sept privilèges, je lis, « J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur. » Pourquoi, Paul? car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé de Christ. Mais pour qui, Paul ? Pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont les Israélites. Et là, il utilise un présent, il n'utilise pas un passé en disant qui étaient les Israélites. Non, qui sont les Israélites, malgré leur état spirituel. Et à qui appartiennent ? C'est toujours un présent qu'il utilise l'apôtre Paul. Et c'est là la liste des dons gratuits. À qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, le Messie, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. C'est ce que dit l'apôtre Paul. C'est le premier engagement de Dieu, les dons gratuits. Le deuxième engagement de Dieu, c'est son appel. Et en appelant la nation d'Israël à le connaître, Dieu a fait de cette nation son peuple. Mais sous la nouvelle alliance, scellée par le sang précieux de l'agneau, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous qui croyons, nous sommes devenus son peuple. Mais Dieu aime toujours son peuple comme tel, Israël, à cause justement, et on l'a vu, premier argument de l'apôtre Paul, de ce reste, de ce résidu, de cette petite minorité de Juifs qui a reconnu Jésus-Christ comme Seigneur, comme Messie. La clé, en fait, de compréhension de tout ce que nous disons, Paul écrit au verset 28, « En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. » Et là, discutant un petit peu avec Reynald, il me disait qu'il y a un énorme paradoxe dans ce verset. C'est vrai, ils sont à la fois ennemis et aimés. L'Évangile et l'élection sont deux vérités qui sont la signature de Dieu. Dieu a toujours un projet merveilleux pour Israël, ce peuple. Il est fidèle dans ses promesses. Et pour nous aussi, nous qui avons reconnu le Seigneur Jésus comme justement Seigneur et Sauveur de notre vie, Dieu reste le même, il ne change pas. Il est fidèle aussi dans ses promesses. Il nous donne l'assurance de notre salut. Ce matin, on n'a pas le temps de lire, mais la parabole de l'olivier cultivé ou franc selon les traductions de la Bible que Paul utilise ici dans le chapitre 11 de Romains, on pourrait croire qu'au premier abord, à cause de cette branche retranchée, que nous pourrions perdre notre salut. Et dans certaines de nos églises évangéliques, on enseigne ces choses-là. Mais ce qu'on peut dire très rapidement sur ce passage, sur cette parabole, c'est qu'une branche peut être retranchée comme témoin, mais ce n'est pas directement lié et en rapport avec le jugement de l'âme. Dans les Écritures, on dispose des passages qui décrivent de manière inconditionnelle l'amour de Dieu à l'égard de ses enfants. Et Romains 10, 9, il dit ceci, « Si tu confesses de ta bouche, c'est le verset de mon baptême, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé, tu es sauvé. » Nous avons l'assurance de notre salut. C'est quelque chose de ferme. Que nous puissions apprendre à ne pas nous reposer sur nos lauriers spirituels, mais que nous puissions aussi travailler, comme le dit l'apôtre Paul, à notre salut, quelles que soient les situations aussi embarrassantes de notre quotidien. En conclusion, on raconte qu'un jour, le roi Frédéric de Prusse, lassé des exhortations de son serviteur, l'interrompit brutalement et lui dit « En trois mots, donne-moi une preuve de l'existence de Dieu. » Et le serviteur ne se démonta pas et lui dit « Sire, les Juifs, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Jamais de la vie. » Et après avoir donné quelques arguments, l'apôtre Paul termine ce passage par l'adoration. Et Daniel a cité aussi dans sa prière, nous avons été sauvés, que nous puissions aussi reconnaître dans notre adoration, enfin, que nous puissions adorer Dieu pour cela. Il dit, Romains, je cite, « aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ? Ou qui a été son conseiller ? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ? Tout est de lui, par lui et pour lui, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Paul termine ses preuves par l'adoration. Nos prières pour cette nation se sont-elles essoufflées ? Notre amour de témoigner pour ce peuple s'est-il refroidi ? À Dieu soit la gloire. Je vais demander à Reynald si tu veux bien prier pour terminer. Merci.